è lì troppo sessuale. In analisi la confrontazione tra le perspective talmudiche e le perspective philosophiques du problème moral, et par conséquent cette analyse doit faire suite à l'exposé que nous avons lu hier soir. Je vais donc en première partie reprendre les points principaux de la différence de point de vue concernant le problème du fondement de l'obligation morale d'après la tradition kabbaliste et celui et le point de vue de la pensée philosophique tel que nous l'avons analysé hier soir. Et puis, ce soir, nous aurons à développer un certain nombre de points de cette confrontation, mais appuyé plus particulièrement sur la mentalité talmudique. Vous n'entendez pas, hein? Pour ceux d'entre vous qui ont eu le programme, vous savez que demain soir, nous aurons donc au séminaire, à l'Ordre académique, une étude de texte. Déjà ce soir, nous avions prévu d'étudier sur texte au moins un certain nombre de... Et comme vous êtes suffisamment nombreux, pour ne pas dire plus, alors je crois que ce ne sera pas possible de suivre ce texte ce soir, mais je vous annonce donc que demain à l'école rabbinique, je pense à la même heure, à 8h30, nous aurons à étudier quelques extraits de la Gemara, et j'espère aussi un des textes philosophiques du Kuzari de Judas Lévi. Je vais tenir compte, bien entendu, dans les exposés qui commenceront à partir de ce soir, du travail qu'a fait le groupe d'études avec M. Raphaël Cohen, et que dont j'ai suivi les différents contenus. Je sais que ce travail a été fait systématiquement, et il est possible, enfin il est même certain, que pour ceux qui n'auraient pas assisté à ces cours pendant le premier trimestre, certaines choses risqueraient bien entendu d'être imprécises ou assez obscures, mais nous aurons une interruption à chaque analyse, de telle sorte que vous puissiez poser des questions éventuellement. Il y aura donc, depuis hier soir jusqu'à demain soir, trois exposés généraux, celui de demain soir appuyé sur texte, et assez naturellement d'ailleurs, je pense que la pensée de l'équipe qui a préparé le programme du séminaire, assez naturellement, nous arriverons jeudi soir à l'étude de Hanouka, puisque ça fait partie, donc, semble-t-il, de la cohérence de ce sujet, puisque, comme vous le savez, Hanouka représente, du point de vue de la commémoration historique, un moment extrêmement important de la confrontation entre le monde hellénistique et le monde judaïque. Et puis, nous retrouverons pour les études de Shabbat, rendre l'histoire et la journée de Shabbat, et la clôture, ce sera samedi. Bien, alors je voudrais quand même d'abord vous donner très rapidement la parole pour ceux d'entre vous qui ont assisté à l'exposé d'hier soir, de telle sorte que je puisse bâtir les analyses après vos questions. Et si vous avez des questions sur les points principaux de l'exposé d'hier, posez-les immédiatement. Pour ma part, je reprendrai l'articulation essentielle, mais elle tient, comme nous allons le voir, en deux ou trois équations. Donc vous avez la parole pour quelques minutes. Très rapidement, très schématiquement, l'analyse que nous avons eue hier soir, et je conclurai sur la réponse à la question qui m'a été posée. Bien, je crois que la formule principale qui pourrait résumer ce que nous avons parlé hier soir serait la formule suivante. C'est qu'il y a, bien entendu en schématisant beaucoup, mais il y a dans l'histoire de la culture humaine, dans l'histoire de la culture générale, par rapport au problème moral, et en particulier par rapport au problème du fondement de l'obligation morale, il y a deux mentalités radicalement différentes. La mentalité philosophique en général, d'une part, et qui se sépare, qui se divise en plusieurs écoles, et qui ont pour principe commun de réduire le fondement de l'obligation morale à autre chose que la vertu elle-même, à autre chose que la moralité elle-même, à autre chose que la valeur morale. Et bien entendu, la conclusion de chacune de ces écoles philosophiques sera de dénommer vertu le fondement autre que la moralité que l'on a désigné comme étant le critère de la moralité. Pour donner immédiatement des exemples, nous avons certaines écoles qui réduisent le bien à l'utile, par exemple. Tout le monde a entendu parler de la doctrine qui se nomme l'utilitarisme en morale. Il s'agit de la réaction d'une certaine forme de la conscience humaine qui a expérience de la valeur du bien mais qui définit le bien comme étant l'utile. Parce que, si vous vous souvenez de notre problème, la conscience humaine est en quête du critère de ce qui fait qu'une valeur morale est une valeur morale. L'expérience directe, immédiate, l'intuition immédiate, comme dirait Bergson, est indéniable. Il n'a jamais fait de doute pour aucun système philosophique. Il y a une donnée immédiate de la conscience morale qui consiste dans l'intuition des valeurs. En tout cas, au stade de la culture humaine où nous nous trouvons dans la civilisation contemporaine qui débute il y a à peu près 2500 ans, à peu près au moment de l'arrêt de la prophétie comme événement historique en Israël et le début, d'autre part, de la pensée philosophique dans le monde grec, pensée philosophique qui a finalement irradié dans l'ensemble du monde culturel que nous connaissons. Il y a eu là une charnière historique extrêmement importante dans l'histoire de la culture humaine, c'est au moment où la prophétie comme expérience de révélation de l'extérieur de la conscience humaine cesse en Israël, que commence la réflexion philosophique en Grèce. La pensée juive, elle, parallèlement, se développe dans une fidélité par la connaissance à ce qui avait été révélé au niveau de la prophétie. Nous aurons certainement à reprendre jeudi soir, lorsque nous aurons à parler de l'opposition entre le monde hébraïque et le monde grec à l'époque des Asconiens, enfin à l'époque de Maccabi, à reprendre cette partie du problème. Mais dans tous les cas, au stade de la culture dans lequel nous nous trouvons, et je dois tout de suite ajouter qu'un des éléments fondamentaux de la culture générale telle que nous la connaissons est aussi l'éducation biblique qui a irradié à travers, ou en dépit, ou au-delà de la problématique philosophique elle-même. Aucun philosophe pensant sérieusement depuis 2000 ans en tout cas, ne peut ignorer le fait qu'il a lu la Bible, et, ou qu'en tout cas, l'homme cultivé a lu la Bible. C'est la raison pour laquelle il y a une difficulté, il y a plus qu'une difficulté, il y a une ambiguïté dans les analyses qui nous sont proposées concernant le problème moral, lorsque le moraliste, au nom de la perspective philosophique, désigne les valeurs que la Bible avait révélées, et c'est intentionnellement que j'emploie des termes différents, parce que l'expérience intellectuelle philosophique et l'expérience intellectuelle traditionnelle n'est pas du tout du même genre. La grande différence, c'est que le philosophe pense comme si jamais il n'y avait eu de révélation, et comme si les valeurs que connaît la conscience humaine, toutes celles dont parle la Bible y compris, avaient été le produit de l'expérience et de l'intelligence humaine, purement et simplement. Enfin, le postulat de la pensée philosophique, c'est un athéisme rigoureux, c'est un athéisme absolu. Le philosophe parle en tant que Dieu n'a jamais parlé. Enfin, je schématise, si vous voulez, toutes ces formules, parce que nous devons aller très vite dans ces analyses, mais pour donner un certain nombre de coordonnées à notre problème. Tandis que l'homme de la pensée traditionnelle pense et réfléchit en tenant compte et en prenant au sérieux le fait qu'il y a eu révélation qui a cessé à un certain moment de l'histoire de l'humanité. La tradition rend compte des raisons pour lesquelles le phénomène révélation a cessé, mais encore une fois, la mentalité de l'homme d'une tradition est très différente dans son propos, dans son, non seulement dans sa problématique, mais dans son attitude, de la mentalité de l'homme philosophe en tant que tel. Je pense que ceci vous est déjà suffisamment clair. Hein? Les postulats ne sont pas du tout les mêmes. Et dans tous les cas, pour revenir à la définition de la position philosophique, l'intuition des valeurs morales est indéniable. Aucun philosophe sérieux n'a nié que la conscience ne connaisse le bien comme bien et non pas comme autre chose que le bien, quelle que soit la table des valeurs que l'éducation aura transmise. Enfin, le problème de la table des valeurs est un problème différent de celui de l'expérience de la valeur comme telle. Bien évidemment, l'éducation va nuancer. Et dans ce terme d'éducation, il faut mettre toute la culture. Il faut mettre beaucoup de choses, plus que simplement la transmission par autrui des convictions qui font notre être intérieur. Les convictions qui font notre être intérieur sont aussi modifiées par notre propre tempérament et par notre propre génie individuel, mais finalement la table des valeurs dépend de la culture de chaque individu. L'expérience de la valeur comme telle, de la valeur comme valeur, est une expérience universelle. Par conséquent, on ne nie pas du tout dans le monde philosophique, dans le monde de la pensée philosophique, on ne nie pas que la conscience humaine est l'expérience du bien comme telle, mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas se demander, il y a une intention au bien, mais il n'y a pas la connaissance du critère de ce qui fait que le bien est connu comme tel, que le bien est le bien. C'est la raison pour laquelle nous trouvons tout cet éventail des doctrines philosophiques. Comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure est l'utilitarisme. Alors on dira que le bien, c'est ce qui est utile. On a donc ramené la vertu à autre chose que la vertu. Mais on va ériger l'utilité, l'utile en vertu. Et on va dire que la vertu, c'est l'utile. Que l'utile, c'est cela le vertueux. Il y a là une mentalité philosophique anglo-saxonne, que vous avez deviné, d'ailleurs, historiquement, ce système a été mis en forme par les anglo-saxons. Il y a toute une intuition, en fait, toute une polarisation pragmatique de la pensée anglo-saxonne. Mais ce que je voulais démystifier, et ceci vaut, cette éducation vaut pour ce système comme pour tous les autres, c'est que les fondateurs de systèmes de ce genre étaient d'autre part des hommes connaissant la moralité de façon irréductible, connaissant la moralité pour elle-même. Enfin, pour ne pas le citer, Bentham, qui est c'est un mot anglais, c'est un mot hébreu, Bentham, c'est joli d'ailleurs, Bentham, qui était un juriste anglais, et qui a érigé ce système philosophique, qui a donné la forme, du moins, de ce système philosophique de l'utilité érigée comme étant la vertu, et vous voyez comment ça correspond à un tempérament culturel bien précis, à un tempérament culturel donné, que je pense au fond n'importe quelle personne, à un âge anglo-saxon, il y a un âge de l'utilitarisme, hein? Les anglo-saxons sont peut-être fixés à cet âge-là. Mais, je crois qu'il faut dire que, de bonne foi et très sincèrement, Bentham était d'autre part un homme dont la volonté, dont la conscience était soumise à l'obligation du bien en tant que tel. Mais il a cherché non seulement le langage d'exposition culturelle des vertus, mais il a cherché surtout le critère qui pourrait permettre la règle d'application pratique. Et voilà ce qui est le minimum commun de l'ensemble des différents systèmes philosophiques lorsqu'ils parlent de ce problème. Première remarque, ils admettent tous le caractère indéniable de l'expérience irréductible de la valeur morale comme telle. Deuxième remarque, deuxième temps de la dialectique, si vous voulez, ils ramènent la vertu à autre chose qu'elle-même. Et alors, nous avons là l'éventail des différentes doctrines philosophiques. Les uns mettront en évidence l'intérêt, les autres la recherche du bonheur, les autres la raison, le raisonnable, d'autres encore l'intérêt de la société, d'où nécessité d'une science de la société pour savoir quel est le véritable intérêt de la société, etc. Vous retrouverez là l'ensemble d'éventail des doctrines philosophiques concernant le problème de la définition du bien. Le postulat commun consiste à réduire la moralité à autre chose qu'elle-même. Face à cette mentalité philosophique, il y a la mentalité traditionnelle, enfin, j'emploie ce terme provisoirement, enfin, la mentalité traditionnelle, la mentalité religieuse, si vous voulez, dérivée de la Bible, et qui élit l'expérience morale comme un irréductible, mais qui renvoie finalement à une problématique très mystérieuse, qui renvoie à une sorte de secret que posséderait une certaine société parmi les autres et qui aurait été la société hébraïque. Le code de la morale vraie, c'est-à-dire la Torah, pas pour pousser les choses à la limite très rapidement, le code de la morale vraie n'a été connu par expérience que dans la société où le phénomène de la révélation a été pris au sérieux et expérimenté comme tel. Et c'est la raison pour laquelle je disais en deuxième analyse que le conflit n'est pas tellement entre les différents tempéraments qui assignent comme critère soit la raison, soit l'intérêt, soit le plaisir, soit la recherche du bonheur, les différents critères que l'on peut énumérer. Le conflit n'est pas entre ces tempéraments. Il est entre deux mondes culturels où ces différents tempéraments se retrouvent secondairement. Entre deux mondes, l'un qui va réduire la moralité à autre chose qu'elle-même, et puis d'autre part, un monde d'une expérience culturelle dite, que je vous nomme traditionnelle. En réalité, il faudrait le dire en hébreu. En hébreu, ça se dit Kabbalah. C'est l'expérience des Kabbalistes, de ceux qui pensent une pensée qu'ils ont reçue par tradition. Vous voyez que la méthode même de la pensée est à l'opposé des critères de la méthode philosophique. hein, eh bien, et à l'origine de cette tradition, il y a révélation. Vous voyez comment j'essaie de caractériser ces deux types de mentalité humaine qui sont irrésistibles. Ça ne veut pas du tout dire que l'un ne peut pas prendre connaissance de la problématique de l'autre. Hein. C'est-à-dire, du point de vue de l'expérience culturelle, bien entendu, l'homme de la philosophie peut connaître, même s'il ne reconnaît pas, mais il peut connaître les convictions et les connaissances de l'homme de la pensée kabbaliste, et inversement, l'homme de la pensée kabbaliste, c'est-à-dire de la pensée traditionnelle au sens strict du terme, peut connaître, même s'il n'en reconnaît pas les postulats, peut connaître le contenu d'expérience de la pensée philosophique. Et en fin de compte, il vise à élucider le même problème, celui de la destinée humaine. Mais je voudrais, comme nous avons peu de temps, je voudrais pousser les choses à la limite, il faut toujours nuancer tout cela. Parce qu'il y a le danger de croire que c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Les postulats de l'attitude, de la conscience et de l'intelligence et de la volonté sont vraiment irréductibles. Même si, apparemment, formellement ou même dans le détail des analyses, il semble y avoir analogie. Le langage talmudique, lorsqu'il dit cela ressemble, comme vous le savez déjà, ce sont les étudiants de le Talmud, lorsque le Talmud dit cela ressemble, il veut dire même ressembler, cela ne ressemble pas. Et en réalité, je vous fais très rapidement, en petite parenthèse, l'analyse de l'expression talmudique qui est employée en hébreu, lorsque le Talmud dit Enodome ze laze, Enodome ze laze, ceci ne ressemble pas à cela. Alors, la question qui se pose à nous immédiatement, c'est que on aurait dû dire seulement cela ressemble. Ça se borne à ressembler seulement. Dire ce n'est pas la même chose, mais cela ressemble. Comment se fait-il que le Talmud dise Enodome, cela ne ressemble pas? Il veut dire que cela ressemble. Pourquoi dit-il cela ne ressemble pas? Est-ce que vous comprenez l'analyse? Vous voyez que comment nous sommes tout de suite dans une mentalité logique différente. Voilà. Lorsqu'on dit cela ne ressemble pas, on veut dire en réalité cela se borne à ressembler. Est-ce que c'est bien clair? Alors, il dit, si le Talmud dit cela ne ressemble pas, ça signifie que même ressembler, cela ne ressemble pas. C'est ce que vous demandez. Et le donné, c'est-à-dire, à filou donné, et le donné. Même ressembler, cela ne ressemble pas. C'est-à-dire, lorsque on va au fond des choses dans l'analyse, alors on s'aperçoit que les postulats sont irréductibles, que les postulats sont opposés. Même, une fois de plus, même si l'apparence se fait croire, parce que là et là, il y a des pensées profondes, parce que là et là, il y a la visée, c'est la recherche de l'élucidation du corps de la destinée humaine, parce que le projet est identique, alors on croit que cela ressemble. En réalité, même ressembler, ça ne ressemble pas dans le fond des choses. Et là, nous aurons à revenir tout à l'heure à cette manière d'exposer le problème de la part de la pensée traditionnelle, qui renvoie finalement à une expérience spécifique, l'expérience de la morale, telle qu'elle a été connue par l'identité hébraïque, et corollairement, nous savons déjà, je l'ai donc rappelé, l'identité hébraïque, c'est-à-dire cette même identité qui était capable de révélation, du moins capable de recevoir la révélation. Et qu'au fond, c'est seulement dans la tradition juive, et ceci la thèse des Kabbalistes, hein, c'est seulement dans la tradition juive que la morale se fonde sur elle-même et débouche sur un code de la moralité et non pas sur autre chose, sur une légalité qui se fait prendre pour la morale. Je pense que cette première analyse est maintenant suffisamment bouclée. Je me souviens d'un très grand livre, c'est un petit livre en contenu, mais c'est un très grand livre du Moyen-Âge, du XIe siècle, de Rabbi Shiya, qui était un rabbin qui vivait dans le sud de la France, au XIe siècle, qu'on appelait Rabbi Shiya Hanassi, et qui a écrit un livre qui s'appelle Hegion HaNefesh, la dialectique de la personne humaine, pour traduire en langage moderne, et qui dit dans sa préface, nous pouvons être d'accord avec les philosophes sur ce qu'ils lisent dans le projet de l'aventure philosophique, c'est moi qui traduis, voilà. Et c'est que le bien existe et que le sens de la destinée humaine, c'est de réaliser le bien. Jusque-là, nous pouvons être d'accord avec eux. Mais dès que nous posons la question, et qu'est-ce que c'est que le bien? À partir de là, eh bien, nous divergeons. Et pas seulement, si vous voulez, dans le contenu de la réponse, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, je crois que c'est Brillet, l'historien français de la philosophie, un des plus grands historiens français de la philosophie du monde contemporain, qui a écrit une thèse concernant ce problème, et qu'il a nommé la crise des principes. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que finalement, il y a un consensus, semble-t-il, universel sur les impératifs qu'il y a à accomplir pour que la moralité réussisse. Tout le monde est d'accord sur plein, paix, liberté. Tout le monde est d'accord sur égalité, fraternité, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et liberté. Mais tout le monde est d'accord, mais comment réaliser cela ? Comment faire cela ? C'est là que l'on diverge. Et l'on diverge sur les principes au nom desquels c'est ainsi que l'on va agir pour réaliser la liberté, la fraternité, la liberté, etc. Vous voyez comment se pose le problème. Alors, à ce propos, j'avais pris un exemple, c'est un exemple de la faute. Une analyse phénoménologique comme exemple, comme illustration de ce fait que, effectivement, la résonance de l'expérience morale est radicalement différente dans le monde des présupposés philosophiques et dans le monde des présupposés traditionnalistes. C'est que si nous définissons ce qu'est la faute, en la ramenant aux critères, à l'étalon de la valeur définie par tel ou tel système philosophique, alors on s'apercevra que, bien entendu, pour la morale, disons, laïque, comme on dit, enfin le terme est très peu approprié, mais c'est pour opposer à une morale qui serait dite religieuse. Je reviendrai sur ces vocabulaires après. Disons, pour la morale philosophique, basée sur la réflexion philosophique, la faute c'est grave. Bien entendu, la faute c'est grave. Mais cette gravité de la faute n'a pas du tout la même résonance spirituelle que la gravité de la faute qui s'attache à la conscience religieuse par rapport au problème moral. Je dis, je ne parle pas du péché, je ne parle pas de la faute religieuse, je parle de la faute morale. Je veux bien que nous distinguions ces deux problèmes. Enfin, le problème de la transgression de la loi religieuse, proprement dite, est un autre problème. Je parle du problème des valeurs morales. Eh bien, il y a aussi d'ailleurs une compensation. Je veux dire que l'expérience de la faute dans la conscience religieuse est certainement plus grave. Et ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Il y a une compensation, nous le verrons tout à l'heure. Et je décris donc le problème. Prenons un système basé sur la rationalité, et bien entendu, le fait d'être en porte-à-faux avec la raison dans sa conduite, c'est une gêne. C'est une gêne. C'est grave. C'est un désordre. Hein? Et c'est ressenti comme tel, et c'est désigné et dénoncé comme tel. Mais enfin, c'est pas plus grave que ça. Hein? Alors que je reprends l'analyse de l'expérience de la faute dans la conscience religieuse, c'est grave. Parce que ce que la moralité met en jeu n'est pas seulement tel ou tel ordre des choses dans l'avoir de l'homme, dans ce que l'homme possède dans le monde, dans le monde en tant que richesse propre à l'homme, l'avoir, mais ça va plus loin, ça porte dans le sort de l'être de l'homme lui-même. Les valeurs seront considérées dans le monde philosophique comme étant l'avoir le plus précieux de la conscience humaine, mais cela ne reste qu'un avoir. Et si cet avoir est en désordre, on a perçu l'expérience de la faute. Tandis que du point de vue de la mentalité kabbaliste, et c'est ce qui est exprimé pratiquement à toutes les pages du Talmud, eh bien, et c'est intentionnellement que je dis kabbaliste, Talmud, parce que c'est la même chose à deux niveaux différents, eh bien, la faute, le désordre de la faute est ressenti comme portant sur l'être même, et non pas seulement sur la voix de la personne humaine. Vous savez, par exemple, que le nombre des différents commandements, tant positifs que négatifs, que comporte la Torah, les mitzvot, le nombre des mitzvot est comparé par le Talmud au nombre des parties constitutives de la personne humaine. Il y a 248 mitzvot athées, commandements positifs, tu feras ceci, ce que la valeur ordonne, et ça correspond, nous dit le Talmud, aux 248 membres de la personne humaine, les varim, les membres, sont des chiffres qu'il faut comprendre tout de même d'autre part, mais retenons surtout pour le moment l'idée. De la même manière, il y a 365 commandements négatifs, commandements d'interdiction de la valeur, lorsque la valeur s'adresse à la volonté, c'est pour lui dire soit fait, soit ne fait pas. 365 commandements négatifs qui correspondent aux différents nerfs, ou tendons qui relient les membres entre eux, ne disent pas que c'est. Et ça signifie que les valeurs ne sont pas définies ou comparées à l'avoir de la conscience, mais à son être même. De telle sorte que, effectivement, nous avons d'autres termes qui élargissent encore ce thème en disant chaque fois qu'une valeur a été agie, qu'une valeur a été réussie, qu'elle a été incarnée, eh bien c'est un point de ma personne qui est, et alors c'est là que le vocabulaire profondément religieux intervient, c'est un point de ma personne qui est racheté, qui est sauvé. Vous voyez la grande différence. Voilà. C'est pourquoi je dirais à la limite, bien entendu, il faut considérablement nuancer à cause de cette ambiguïté qui fait que les hommes de la culture philosophique sont aussi d'autre part croyants à leur manière. Je veux dire, d'autre part, ils sont aussi les hommes de la culture traditionnelle. Et parce que c'est avec une approche philosophique que finalement ils parlent des valeurs révélées par la tradition. Je vous ai donné hier le cas de Kant, parce que c'est un cas spectaculaire dans l'histoire de la philosophie. Nous savons que Kant a eu une éducation biblique très puritaine. C'est aussi le cas de Descartes, d'ailleurs. Descartes qui dit, d'autre part, qui s'en explique dans ses lettres, que, bien entendu, les philosophes, ça, il l'a jamais caché, si je veux dire, mais que d'autre part, il a, comme il dit, la religion de sa nourrice. Hein? La religion de sa nourrice. Et lorsqu'il parle des valeurs morales, il désigne, et cela n'est pas par hasard, les évidences morales telles qu'elles découlent de l'enseignement biblique, celles-là et pas d'autres. Est-ce que vous comprenez où se situe l'ambiguïté? Il ne s'agit pas là de philosophes, je parle de la philosophie contemporaine, il ne s'agit pas là de philosophes qui ont pensé dans la société hittite, ou dans la société aztèque, ou dans la société égyptienne, ou l'ancienne Égypte, ou dans la société antérieure à la diffusion de l'héritage hébraïque. Il s'agit de philosophes qui sont tous imprégnés, et qui parfois l'avouent en toute bonne foi, qui sont tous d'autre part imprégnés par ce qui a irradié et diffusé de l'éducation biblique, fût-ce directement à travers le judaïsme, ou fût-ce indirectement à travers le christianisme d'autre part. Enfin, comme dit le Talmud lui-même, il y a dans les textes que manient les chrétiens, les nôtres de textes, il y a dans les textes que manient les chrétiens une force telle que finalement ça ne peut pas ne pas agir. Eh bien, même chez les philosophes. Vous voyez l'exemple que j'avais pris pour la définition de la force. Alors bien évidemment, ainsi définie, la force porte sur le sens profond de la destinée de l'être, et beaucoup plus que sur cette espèce de capital de valeur, cette espèce de richesse de la voix, de la conscience. J'espère que le vocabulaire est suffisamment clair pour me faire comprendre dans la réponse que je vous ai donnée. Mais alors, et bien évidemment, il y a une compensation. C'est une des analyses que je voulais déjà introduire ce soir, bien, nous la prenons pour commencer. Il y a une compensation. Si nous étions devant, lorsque nous parlons du monde des valeurs morales, si nous étions devant le monde de l'impersonnel des principes dont parle la philosophie, alors nous serions perdus. Si la faute est quelque chose d'aussi grave qu'elle porte sur le sort de l'être et non pas seulement sur le sort de la voix, et que la souveraineté de la valeur morale procède d'un monde impersonnel, le monde des principes, le monde des valeurs entendues comme étant des idées, alors nous serions perdus. Parce que face à l'impersonnel de la valeur, la personne humaine serait écrasée et nous basculerions dans ce qu'a été effectivement l'expérience tragique de la conscience grecque, découvrant les valeurs, mais les valeurs comme des idées, non pas comme un quelqu'un, ce qui est le secret de la connaissance de la conscience religieuse, parce que la valeur c'est quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui je peux discuter, avec qui je peux plaider. Vous voyez où se trouve la compensation, hein? C'est que dans l'expérience morale de la conscience religieuse, me trouvant devant la loi, je me trouve devant quelqu'un. Alors que dans l'expérience morale de la conscience philosophique, me trouvant devant la loi, je me trouve devant la damnation, finalement. C'est à cette sorte de loi que saint Paul pensait certainement lorsqu'il dit que c'est la loi qui nous tue, que c'est la loi qui nous perd, que c'est la loi qui nous damne. Je suppose que certains d'entre vous ont lu ces textes évangéliques de saint Paul. Lorsque saint Paul parle de la loi, il est censé parler de la loi juive, de la Torah, hein? Mais il en parle en la définissant exactement comme la loi romaine. C'est de la loi romaine qu'il a été dit, je suppose, dur à l'ex, Seigneur. Je ne sais pas si la petite gamme est authentique, mais enfin, vous voyez quelle est l'idée. c'est-à-dire cette loi qui s'impose à moi, qui fait que la valeur est la valeur, l'expérience morale procédant de cette réalité monstrueuse que serait la loi s'il n'y avait que la loi, et si la loi n'était pas l'expression de la volonté de quelqu'un. Parce qu'avec le quelqu'un, il s'agit de Dieu, bien entendu, avec le quelqu'un, on peut discuter, on peut plaider, on peut, et d'abord, votre deuxième question, on peut avoir un jugement qui soit vraiment un jugement. Est-ce que c'est bien clair, hein? Je vais vous raconter de nouveau, puisque nous ne pouvons pas, et vraiment, je le regrette, mais ça, je vous renvoie aux études de chaque semaine de ce problème. C'est vraiment dommage que nous ne puissions pas suivre cela à la loupe, à la lecture des textes. Mais je ne vais donc pas vous citer, mais vous raconter un midrash qui se trouve dans la Gemara de Shabbat à propos de ce problème. Et, si vous voulez, la source, l'intuition de base de cela, que la loi n'est pas un ensemble de principes impersonnels, mais que la loi dont parle le peuple hébreu lorsqu'il parle de la Torah, la loi c'est quelqu'un. Hein? Et comme vous le savez, elle est considérée comme la fiancée, elle est considérée comme la kala, elle est considérée comme le fiancé considère la fiancée. Je me souviens d'avoir entendu une fois, tout au début, immédiatement après la guerre, au début des balbutiements de l'amitié judéo-chrétienne, oui, ça commençait simplement à naître, hein, ça. C'est un peu resté à peu près dans les langues encore. Je me souviens d'une analyse de Jacques Madol, qui lui est très certainement et très sérieusement amitié judéo-chrétienne. Eh bien, non, sérieusement, je parle de Jacques Madol, il avait une analyse devant un public chrétien pour leur faire découvrir cela. Et notamment d'une de ses phrases, si vous saviez ce que représente la loi pour les juifs, vous n'en parliez pas à la manière dont vous en parlez. Certains d'entre nous ont peut-être suivi dans les journaux, il y a deux ou trois mois, une polémique que j'ai eue avec l'abbé Laurentin, probablement. Et vous avez dû remarquer, il avait parlé dans le Figaro, un article de l'abbé Laurentin, qui lui aussi, d'autre part, est un autre antique ami des juifs, qui s'est mis en danger au concile, qui a vraiment risqué énormément de choses. Enfin, je profite de l'occasion pour décharger ma conscience. Eh bien, effectivement, il a pris des risques au concile pour un prêtre, c'est certain. Et puis voilà, il s'est laissé aller au vocabulaire habituel paulinien, parlant de la loi, et qui a fait des citations de saint Paul dans le Figaro, absolument scandaleuses pour la dignité de la conscience juive, fut-elle celle des juifs vivant en France. Et puis, par conséquent, j'ai dû faire une mise au point, mais il y a surtout cette intuition que la loi dont parlent les juifs, les hébreux, enfin, l'Ancien Testament, comme ils disent, enfin, la Torah, la Bible, que cette loi, que si le salut passe par la loi, alors nous sommes perdus. Parce que la loi, c'est quelque chose de monstrueux, c'est elle qui distille le péché. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de faute. Vous voyez, toute cette dialectique polynienne. Hein? Eh bien, cette loi-là, cette manière d'être de la loi, ce n'est pas la loi talmudique. Ce n'est pas la loi telle que les talmudiques la connaissent. Hein? C'est la loi romaine. Et c'est pourquoi j'ai toujours personnellement été étonné de cette légende qui court dans les milieux judéo-chrétiens que saint Paul était talmudique. Je n'ai jamais compris quel Talmud il a connu. Je crois que c'est très important de mettre ça en évidence. Je pense que... Oh, il a pu être, je sais pas, un jour dans sa vie, membre d'un Talmud Torah quelqu'un. Peut-être. Peut-être à Saint-Paul, je veux dire. Mais je veux dire que l'expérience polynienne est très certainement une expérience philosophique poussée à l'extrême. Vous savez, il y a chez saint Paul la dialectique entre le juif et le grec. Hein? Une expérience philosophique poussée à l'extrême, que par la philosophie, il ne peut pas y avoir de salut réel, puisque finalement la philosophie nous met devant la silence, nous met devant l'impersonnel, nous met devant le monstrueux. Et ça a été l'expérience très tragique de la conscience grecque. Le secret, si vous voulez, de l'homme de la Kabbalah, de l'homme de la tradition hébraïque, c'est que bien sûr il y a silence, mais qu'il y a eu parole. C'est qu'il y a une péripétie historique. La révélation a eu lieu et elle a cessé. Et il y a des raisons pour cela. Vous comprenez bien ce que je veux dire, hein? Donc, l'impression, je pense qu'il en est vraiment ainsi. C'est lorsque le symbole des évangiles, c'est peut-être d'ailleurs un apocryphe, c'est peut-être, je veux dire, ce sont peut-être des textes qui formulent la réaction de la conscience chrétienne en faisant parler saint Paul, soi-disant à midi, de ce qu'est la loi des Juifs. Hein? Mais lorsque l'évangile parle de ce problème et dit la loi ne peut pas être salvatrice, la loi est culpabilisante. Hein? La loi c'est le péché, la loi c'est la mort de la conscience, c'est la mort de l'esprit, etc. Eh bien, en aucun cas il ne peut s'agir d'une expérience de la loi juive. C'est effectivement, et je pense que c'est dans cela que l'expérience paulinienne est exemplaire, parce que chaque fois qu'un juif va au christianisme, c'est le chemin de Damas, de saint Paul, qu'il reprend. Hein? C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les chrétiens eux-mêmes ont pris pour porte-parole systématique de ce que leur propre foi, non pas tellement celui qu'ils appellent le Christ, mais ils ont pris saint Paul. Saint Paul a dit ces paroles de l'Évangile pour un chrétien. Eh bien, parce que c'est l'expérience exemplaire de ce que je tente de vous décrire, l'homme exigeant le salut et ayant poussé l'expérience grecque, l'expérience philosophique jusqu'au bout du désespoir, hein, et n'osant pas croire que ce soit à la manière d'Israël, de la Torah, que le salut soit possible, mais pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas en réalité ce qu'est la loi selon la mentalité talmudique. Bien, j'arrête là cette parenthèse, du moins cette préface, pour vous citer ce midrash auquel je pense, et qui va vous restituer une dimension de la perspective talmudique de ce problème, que la loi, c'est l'expression de la volonté de quelqu'un, et avec ce quelqu'un, il y a plaidoyer possible, il y a véritable jugement possible, qu'il ne s'agit pas seulement, si vous voulez, de la conséquence ultime de... du rochem, donc du retentissement que chaque faute a eu en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? D'une espèce de mécanisme structuraliste qui ferait que, en fin de compte, je suis devenu le résultat de mes fautes sans rémission, sans espoir. Ce n'est pas ça le jugement auquel pense la conscience messianique, mais un véritable jugement avec procès et avec plaidoyer. Parce que finalement, nous avons des comptes à rendre, mais on a des comptes à nous rendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, voici ce passage que trouve dans la Masechet Shabbat. Et la racine de cette intuition de base, c'est la discussion de Abraham avec Dieu au moment de la faute de Sodome et Gomorre. Hein? Il n'y a que dans la Bible des Hébreux qu'il peut y avoir une route pas pareille, hein? Et une insolence pareille. Si vous voulez, en fait, c'est pas insolent, c'est route pas. Hein? Et seulement, nous sommes tellement familiarisés avec des textes de ce genre que nous n'arrivons plus à percevoir immédiatement l'enseignement qui est véhiculé là. Hein? C'est que Abraham entreprend une comptabilité dans sa discussion avec Dieu, qui a bien entendu un sens symbolique extraordinairement important, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tellement ça ce qui veut être véhiculé immédiatement du point de vue de l'enseignement de ce texte. Hein? C'est le fait essentiel, le fait simple et pur que, avec le juge, le juge de la loi, le juge de la destinée humaine, il y a discussion possible, alors que avec la loi telle que l'entend le logos, voilà, avec la loi telle que l'entend la mentalité philosophique, il n'y a pas de discussion possible. Il y a le fait, il y a uniquement, enfin il y a essentiellement, pas uniquement, il y a essentiellement la conséquence que Pascal en a tirée, c'est-à-dire, de nouveau, une expérience tragique, voilà, la loi, la raison, la vérité est plus forte que moi, mais moi, voilà, je suis le roseau, ça, mais moi, je pense. Voilà, Pascal dirait plutôt, je pense, donc je crois, si j'ai compris la philosophie de Pascal. Vous voyez cette espèce de stoïcisme qui finalement consiste à, et qui finalement continue à imprégner l'expérience chrétienne. Et au fond, cette terreur du Père qu'il y a dans la théologie chrétienne, c'est peut-être à l'origine cette terreur de la loi à la manière dont les Grecs et les Romains l'ont connu, puisque le Père est défini dans la théologie chrétienne comme celui qui donne la loi. Il fallait bien que finalement la psychanalyse surgisse un jour de cette culture. Eh bien, revenons à notre problème. Et voici le texte qui se trouve dans le Midrash. Le Midrash talmudique. Ce que Dieu dit un jour aux trois patriarches, Dieu s'adresse aux trois patriarches, successivement, donc Abraham, Isaac, Jacob, et leur dit, voilà, tes enfants, ta descendance, il se réservera Abraham, ta descendance a fauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Abraham répond, eh bien, il faut les annuler au nom de valeur. Littéralement, enfin, je l'interprète très peu. Hein, il faut les annuler au nom des valeurs. Alors Dieu se tourne vers Jacob, vous voyez qu'on a enjambé Isaac. Hein, Dieu se tourne vers Jacob et dit à Jacob, ta descendance a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jacob répond, eh bien, il faut les annuler au nom des valeurs. Alors il y a ici Dieu qui cite un verset de la Bible et qui dit, je n'ai trouvé de sagesse ni chez les anciens, ni chez les nouveaux. Ni chez l'ancêtre, l'ancien, le zaken, le vieux, si vous voulez, ni chez le jeune. Donc on pense bien déjà la problématique des âges, le jugement tel qu'Abraham le donnerait, et le jugement tel que Jacob le donnerait. Jacob apparaît ici comme un jeune homme, si vous voulez, et Abraham apparaît comme le grand-père, comme l'ancêtre. Alors Dieu se dit, je vais demander à Isaac. Il se tourne vers Isaac et dit, Isaac, tes enfants ont fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Isaac commence à discuter. Et vous savez que Isaac, c'est Isaac Abin. Hein? Le jugement, c'est son affaire. Hein? Eh bien, Isaac dit à Dieu, alors comment? Quand ils ont accepté la loi, c'était tes enfants à toi, et maintenant qu'ils ont fauté, ce sont mes enfants à moi. Oui, ça ressemble presque à une chaîne de famille. Et puis Isaac pleure, hein, et dit, enfin raisonnons, il y a 24 heures par jour, et dans ces 24 heures par jour, pendant il y a 3 fois 8 heures, 8 heures on dort, et puis 8 heures on travaille, il y a déjà la journée de 8 heures à l'époque. Et puis 8 heures qui restent, bon 8 heures qui restent, ben mes enfants ils mangent, et puis ils leur arrive de prier, ça prend du temps. Et puis ils font aussi des mitzvot de temps en temps. Bon, qu'est-ce qu'il reste? 3 quarts d'heure par jour? Alors on partage, tu prends la moitié, je prends la moitié. Ouais. C'est exactement comme ça qu'est dit dans la Gemara. Et alors lorsque le Midrash continue en disant que les enfants d'Israël, sur terre, ont écouté tout cela. Je pense que ça, c'est un débat permanent qui accompagne l'histoire d'Israël. Alors, ils écoutaient tout cela, et quand Abraham avait répondu, ils ont eu peur. Quand Jacob a répondu, ils ont eu peur. Quand ils ont entendu Isaac, alors ils ont dit un célèbre verset que nous disons à la prière tous les matins. Abraham, on ne connaît pas. Israël, on ne connaît pas. Ah, Isaac, on connaît. C'est toi notre père. Alors Isaac leur répond, non, il est plus haut. Regardez ça. Vous voyez donc tout ce qu'il y a dans le raisonnement. Voilà. C'est qu'effectivement, il y a quelqu'un derrière la loi et que le plaidoyer est possible. Bon, alors ça c'est donc la seconde analyse. Et puis, je vous rappelle encore le dernier point de l'exposé que nous avons eu hier, avant d'avancer. C'est, nous avons cherché ce qu'il y a derrière cette différence de position entre la problématique philosophique et la problématique kabbaliste. Et à ce moment, si vous en souvenez bien, j'ai ajouté peut-être un peu rapidement, d'ailleurs je dois m'excuser pour mon élocution difficile d'hier soir, j'arrivais à peine et j'étais vraiment fatigué. Il y a peut-être des mots qui ont été avalés dans les analyses, ça peut paraître hostile. Mais je reviens donc au problème. C'est que dans l'éventail des positions philosophiques, j'y ai ajouté aussi, si vous en souvenez bien, une certaine manière de considérer la position religieuse, et que j'avais définie comme païenne. Enfin, c'est une manière, il faut toujours mettre ces termes entre guillemets, ce sont des termes limites, hein, et c'est une manière propre à la réflexion théologique, philosophique. Hein, c'est-à-dire une certaine manière de concevoir le fondement des valeurs morales, et ici le critère, eh bien, c'est une sorte de perfection qui est donnée comme idéal lointain, et la morale consisterait à obéir à la volonté de Dieu, mais On ne sait pas ce qu'est vraiment la volonté de Dieu. Je parle de religion non hébraïque, finalement. On ne sait pas vraiment ce qu'est la volonté de Dieu. On projette une sorte d'idéal qui serait censé représenter la perfection de nos propres imperfections. C'est-à-dire l'idole. Et puis, finalement, c'est de nouveau une position qui réduit la moralité à autre chose qu'elle-même. Mais la grande différence de position de ces deux attitudes vient, au fond, de la différence d'identité entre l'homme philosophe et l'homme croyant. Et donc, lorsque j'emploie ce terme de croyant, ça signifie, bien entendu, de croyant de l'expérience prophétique. C'est l'expérience de la loi morale telle que les prophètes l'ont transmise. Et il apparaît très immédiatement une conception de la moralité radicalement différente. Alors je vous reprends cette fois cette dernière équation de base. Eh bien, le postulat de la conscience philosophique, c'est que l'homme se connaît comme éternel. L'homme se connaît comme, en tant que pensée, n'est-ce pas ? L'homme se connaît comme incréé. L'homme se découvre comme étant lui-même l'être. L'homme est. Vous vous souvenez de l'analyse que nous avons eue à ce propos par rapport à Descartes. C'est que la pensée philosophique commence à se connaître, si vous permettez. Eh bien.